Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large, avec aujourd'hui une tonalité verte particulière en cette journée mondiale de la Terre. D'abord, une première partie autour de l'environnement. Nous serons avec la jeune militante écologiste Camille Etienne, nouvelle figure de l'espace numérique avec son collectif Pensée Sauvage. Et puis aussi le vidéaste et activiste Vincent Verza et sa chaîne Partager, c'est sympa. Dans la deuxième partie, je recevrai une figure également, Cyril Dion, star planétaire depuis son film Demain avec Mélanie Laurent, 1 million d'entrées diffusées dans pas moins de 30 pays. Il repassait hier ce film sur TMC. On vous dira l'audience qu'il a faite. Ça sera Louise Bernard qui va nous dire ça. Cyril Dion, pour venir à lui, pardonnez-moi d'improviser, vient de rencontrer le pape pour lui parler d'environnement. Enfin, dans leur culture, de 10 à 11, je recevrai le musicien Yuxek. Il est français, comme son pseudo ne l'indique pas, et il a signé la musique de la série Phénomène en thérapie sur Arte. Et il sort un album complètement déjanté autour de l'art contemporain. Il nous racontera. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Et bonjour.
Et bonjour, bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
J-30 avant l'Eurovision et une rencontre avec Barbara Pravi, la candidate française. Une nouvelle émission nostalgique pour Laurent Delahousse sur le service public et puis une crise sociale à Psychologie Magazine.
Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
C'est assez inhabituel, vous allez voir l'ordre. C'est M6 en premier avec Top Chef, l'épisode 11. Meilleur score depuis son lancement début février, 3 560 000 téléspectateurs. 16,4% de part d'audience. Puis c'est France 2, c'était le lancement de sa série L'école de la vie, on vous en parlait hier dans le journal des médias. 3 300 000 téléspectateurs, 13,8% de part d'audience. Ouais. C'est un bon lancement, effectivement, à titre de comparaison. La faute à Rousseau, qui était une série aussi lancée le mercredi soir, avait fait 3 millions, 13,2% lors du lancement.
Donc une série qui parlait aussi de profs.
Exactement, c'est un bon lancement pour France 2. Ensuite, il faudra voir les semaines suivantes. Puis c'est TF1, le moins bon score de la saison 3 de The Resident. TF1 qui souffre un petit peu peut-être de la concurrence des autres chaînes. 3 millions de téléspectateurs, 12,6% de part d'audience. Ce n'est pas non plus une baisse catastrophique. Et puis vous le disiez dans le sommaire, je vous donne le score de notre invité Cyril Dion sur TMC. Était diffusé demain. Un petit score, 491 000 téléspectateurs, 2,2% de part d'audience.
Culture Média.
Pour demain, c'était une rediff. Le journal des médias, maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une cette rencontre avec Barbara Pravi à un mois tout juste de l'Eurovision.
Voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi.
Philippe dansait il y a quelques instants. Voilà, c'est le titre que la chanteuse française interprétera le 22 mai à Rotterdam aux Pays-Bas. Ce sera en direct sur France 2. Une compétition qui se déroulera finalement devant un public. Ça a été récemment confirmé, public réduit, 3500 personnes. Mais peu importe qu'il soit réduit, ce public, cela a réjoui Barbara Pravi, qui a bien du mal à voir l'Eurovision comme un concours.
J'ai la chance d'aller chanter ma chanson en live devant plus de 200 millions de téléspectateurs. Je ne peux pas vivre le truc comme un concours. Je vis le truc en me disant juste, déjà ça c'est dingue. Donc en vrai de vrai, même si j'arrive 20e, j'ai déjà gagné. J'ai gagné le ticket qui fait que j'ouvre un Trianon, qui fait que les gens m'écoutent, que je suis de plus en plus écoutée, de plus en plus entendue. C'est fabuleux. Maintenant, de toute façon, il y aura une ambiance de concours. Mais je pense qu'on choisit un peu ce qu'on fait des choses. D'avoir un regard bienveillant sur ce que font les autres ou d'avoir un truc comme ça, un peu agressif, un peu machin. Moi, c'est pas mon cas. Je suis très tranquille, quoi.
Très tranquille, donc, Barbara Pravi. Même si cette jeune femme de 28 ans est très sollicitée par les médias et elle n'est pas très habituée à y aller. Barbara Pravi est plus habituée à l'ombre qu'à la lumière. Elle a écrit et composé pour d'autres artistes. Chimène Badi, Yannick Noah, Julie Zenati, par exemple. L'Eurovision la pousse donc sur le devant de la scène, ce qui suscite chez elle un sentiment ambivalent.
J'ai peur de la lumière parce que moi j'ai pas envie d'écraser et j'ai peur de la lumière qui écrase. J'ai peur dans la lumière de perdre le sens. Mais sinon, évidemment que je suis extrêmement heureuse. Je suis heureuse parce que c'est pas une chanson qui veut rien dire et j'ai pas un parcours qui veut rien dire. Donc du coup, le fait qu'il soit mis en lumière, ça c'est quelque chose que je trouve formidable. Maintenant, moi, être en lumière, en vrai, moi j'ai pas plus d'intérêt que n'importe qui. Peut-être ce qui a un intérêt, c'est ce que je raconte dans Voilà, c'est ce que je raconte dans ma musique. Et voilà.
Et voilà, elle s'est placée son titre, c'est... Barbara Pravi.
Bien joué.
Bien joué. Barbara Pravi, que vous avez rencontré, hein, Louise Bernard, et à qui France Télévisions va consacrer un documentaire. Il sera diffusé le 20 mai sur France 4 après les demi-finales de l'Eurovision et le 22 mai sur France 2 après la finale. France Télé qui a prévu un vaste dispositif autour de l'événement, un dispositif présenté il y a quelques jours. Deux semaines avant l'événement, il y aura des pastilles quotidiennes sur France 2 à 20h40. Dans la semaine qui précédera l'Eurovision, il y aura un feuilleton dans le trésor de Julien Bugier. Et puis le jour J, l'émission de Laurent Delahousse, 20h30 le samedi, sera dans les coulisses de l'Eurovision. L'Eurovision, c'est donc sur France 2 le 22 mai avec un duo d'animateurs inédits, Laurence Boccolini, Stéphane Bern. On aura l'occasion de vous en reparler d'ici là.
De France 2 à France 3, Laurent Delahousse va y présenter une nouvelle émission.
Archives secrètes, une nouvelle collection de documentaires. Il s'agit de raconter l'intimité de personnalités populaires à travers des archives très peu connues du public, des archives présentées comme des trésors, issues de fonds privés, des familles, de fans parfois, des images que parfois commentées avec émotion par certaines personnalités. Le premier numéro sera consacré aux idoles des années 60, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Joe Dassin, Françoise Hardy et Jacques Dutronc, Dalida, Alain Delon ou encore Claude François. Rendez-vous dans trois semaines, le 14 mai à 21h05.
Et on sait désormais qui va animer la nouvelle émission de M6, Domino Challenge.
Oui, on vous avait parlé de cette émission déjà dans le journal des médias. Bien, c'est Stéphane Rothenberg, l'animateur de Top Chef et de Pékin Express. C'est lui qui incarnera ce nouveau programme, un concours de domino, adaptation d'un format étranger dont on ne connaît pas encore la date de diffusion. C'est une information du site Pure Média que nous sommes en mesure de confirmer ce matin.
Et puis dans l'actualité des médias encore, un plan de licenciement à Psychologie Magazine.
Le mensuel va supprimer un service, celui qui s'occupe de la maquette et de l'iconographie, des fonctions qui vont être externalisées. 7 personnes vont perdre leur emploi. Une nouvelle qui leur a été annoncée, non pas par la direction, mais par les élus du personnel. Un moment particulièrement douloureux quand on s'appelle psychologique. On a été attentif aux questions de bien-être, écrivent ces élus. La direction, elle, estime que ce plan est nécessaire pour pérenniser le titre, un titre propriété d'une filiale du groupe belge Rossel.
Le cours de bourse de Netflix a dévissé hier.
Oui, moins 10% en clôture à Wall Street. À la clôture à Wall Street, conséquence de résultats décevants, et on n'en a pas eu l'habitude ces derniers mois. La croissance de la plateforme s'est tassée au premier trimestre. Elle a recruté moins d'abonnés que prévu, 2 millions de moins. Tout cela explique Netflix, c'est parce que son offre de contenu a été réduite à cause de la pandémie, une crise qui jusque-là lui avait plutôt réussi. Le géant du streaming n'est néanmoins pas à plaindre. Son chiffre d'affaires a augmenté de 24% en un an et son bénéfice lui a plus que doublé à un peu plus d'un milliard d'euros.
Instagram lance une fonctionnalité nouvelle pour ne pas recevoir d'injures et pour lutter contre le harcèlement.
Oui, si vous êtes utilisateur de ce réseau social, vous pourrez bientôt choisir de filtrer les messages privés que vous recevez, filtrés en fonction des mots, des expressions ou des émojis que ces messages contiennent. Si ces images ou ces mots sont offensants, les messages seront automatiquement mis de côté.
Et puis deux infos séries pour terminer.
Le retour d'une sitcom des années 90, Les filles d'à côté. La série va être relancée à la rentrée sur C8 par celui qui l'a créée, Jean-Luc Azoulay, le A de AB Productions, comme vous le dites souvent, Philippe. Ouais. Il sera accompagné de Cyril Hanouna sur ce projet. Cyril Hanouna qui sera coproducteur. Et puis, autre projet... Ça fait plaisir à Louise Bernard, une série dérivée de How I Met Your Mother.
Voilà,
elle s'appellera How I Met Your Father, série commandée par la plateforme Hulu. Malin, oui, effectivement. Il y aura de nouveaux personnages, de nouveaux scénaristes qui seront accompagnés par les créateurs de la série originale.
Et comme dirait Barbara Pravi, voilà. Merci Louise Bernard, merci Antoine Genton. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et les audiences.
À demain.
À demain.
À suivre, notre info média du jour focus sur l'environnement à travers cette journée de la Terre. On en parle d'abord avec la militante écologiste Camille Etienne, membre du collectif Pensée Sauvage, et le vidéaste et activiste Vincent Verza. Lui, il est l'auteur de la chaîne Partager, c'est sympa, très joli titre. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
Ouest France, Le Figaro, La Croix, Les Échos ou encore 20 minutes, la lutte contre le dérèglement climatique est à la une de nombreux quotidiens aujourd'hui et pour cause. Un sommet international est organisé par les États-Unis à l'occasion de la Journée de la Terre, une journée annuelle dont les médias n'ont plus vraiment besoin pour parler d'environnement, tant le sujet est présent aujourd'hui à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite. Sur Internet et sur les réseaux sociaux également, à travers des chaînes YouTube, des comptes Facebook ou des projets numériques très engagés, à l'image de leur audience souvent très jeune. Bonjour Camille Etienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes militante écologiste, vous luttez pour la défense dans l'environnement, combat que vous menez entre autres dans l'espace numérique via Pensée Sauvage. En collectif, c'est comme ça qu'on pourrait le désigner ?
Absolument, oui, un duo artistique, ça me va très bien.
On va en parler avec nous également en ligne, Vincent Verza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vidéaste, activiste, vous aussi vous luttez contre le dérèglement climatique et vous le faites à travers votre chaîne Partager, c'est sympa, chaîne que vous déclinez sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Vous comptez près de 740 000 abonnés. Question à tous les deux, qu'est-ce que représente cette journée de la Terre pour vous? Est-ce que c'est un moment important ou un moment comme les autres, Camille Etienne?
Non, très honnêtement, c'est pas un moment important dans le sens où c'est une journée symbolique. C'est un peu comme quand on appelait ça encore la journée de la femme. Je trouve que c'est dommage d'y dédier qu'un jour. C'est même assez ridicule, sachant que l'intégralité du reste de l'année, il faut qu'on s'en soucie. Et puis, c'est pas tant la journée de la Terre. C'est pas elle qui est en danger. C'est réellement nous, l'humanité. Elle a apparemment besoin de nous.
Même question pour vous, Vincent Verza. Est-ce que cette journée de la Terre représente quelque chose de particulier pour vous?
Bah, j'ai vu aujourd'hui que Facebook avait rajouté une petite terre coupée en deux avec un arbre qui pousse au milieu pour marquer le coup. Donc je pense qu'effectivement, ça donne la mesure pour un géant du numérique comme eux de l'engagement que représente la journée de la Terre pour ce qui fait marcher le monde. À mon avis, c'est effectivement symbolique. Et j'entends par exemple que là, sur Europe 1, il y avait encore plein de pubs pour les bagnoles. Donc on n'a pas encore complètement passé le pas du symbolique. Ouais.
Voilà, on en parlera de ça et je parlerai aussi d'initiative tout à l'heure de TF1 pour la publicité qu'ils souhaitent durable et ils font passer des messages à leurs annonceurs. Avant de parler de votre travail respectif sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien avoir votre regard sur la manière dont les médias traditionnels traitent l'environnement. On est ici une émission média, la télévision notamment. Est-ce que vous regardez les émissions, les documentaires qui sont consacrés au sujet? Camille Etienne, je précise, parce que c'est générationnel également, je précise Camille Etienne que vous avez 22 ans, Vincent Verza, 30 ans. D'abord Camille Etienne, est-ce que vous regardez les émissions télé consacrées à l'environnement?
Ça m'arrive, oui, notamment pour savoir comment c'est traité justement. Donc quelle va être l'information que va avoir une grande partie de la population? À mon sens, le problème, c'est que même quand je suis invitée sur des plateaux télé, souvent, on est mis en face de contradicteurs, comme si il y avait une question de proportion, comme s'il fallait mettre quelqu'un de convaincu, puis quelqu'un d'un peu sceptique. Alors qu'en réalité, 99% des scientifiques sont unanimes, et puis il y a quelques-uns sur Twitter qui décident d'être dissidents en se basant sur des fausses études.
Sans faire le show en télé, c'est gênant d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous?
Non, pas du tout, c'est pas du tout gênant de pas avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais la question c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. C'est pas une opinion en fait, le climat. Là, on parle d'une urgence que des milliers de scientifiques nous disent, et nous on essaie simplement de faire passer le message. Après, ouais, on peut ne pas être d'accord sur les solutions, ça c'est de la politique, et dans ce cas c'est important d'avoir de la dissidence bien évidemment.
Même question pour vous Vincent Verza, est-ce que vous regardez les émissions, les documentaires qui sont consacrés à l'environnement?
Il m'arrive, oui, sur Arte principalement, parce que j'aime bien comment est-ce qu'ils traitent ces infos-là. Après ça, j'écoute aussi les flash informations à la radio, pas trop à la télé. Et puis je vois qu'en fait, le problème, c'est partout pareil. C'est-à-dire qu'il y a une pensée en silo. L'environnement va faire l'objet d'une journée comme aujourd'hui. Et après ça, même au sein de cette journée, on va avoir toute une partie du journal qui va être consacrée à comment le robot sur Mars peut préparer le terrain à une installation des humains sur cette planète-là. Alors qu'il faudrait qu'on ait cette pensée. Ah, et d'ailleurs, voilà, comme c'est la journée de la Terre, il est nécessaire de se poser la question de la cohérence de ce projet de l'humanité versus le projet de maintenir les conditions de la vie sur Terre, la Terre qu'on connaît bien et qui est plutôt pas mal pour y habiter en fait.
Alors je voudrais qu'on se penche maintenant sur la manière dont vous traitez vous-même l'environnement. Les réseaux sociaux vous offrent une grande liberté. C'est vous qui choisissez vos sujets, le ton avec lequel vous allez en parler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très libre et très direct. Exemple avec vous, Vincent Verza.
Un truc vraiment louche a attiré mon attention cet été. Le gouvernement a fait des pieds et des mains pour retoquer une loi passée en 2016. Cette loi, obtenue de haute lutte, porte sur l'interdiction des néonicotinoïdes, des pesticides ultra nocifs pour l'environnement, que le gouvernement lui-même appelle « tueurs d'abeilles ». Vu que c'est une des rares victoires législatives des écolos qui vient d'être enterrée, j'ai mené l'enquête pour savoir qui tire les ficelles, pourquoi et comment ils s'y prennent. J'y connaissais franchement rien au dossier avant de commencer cette enquête. Du coup, tout naturellement, j'ai débuté par une recherche sur ce qu'étaient ces néonicotinoïdes dont tout le monde parlait. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sur le cul.
Ça vous a laissé sur le cul, ce ton direct, ce ton libre, une des caractéristiques des réseaux sociaux et de votre parole. Est-ce que c'est un ton qui correspond bien au sujet, Vincent Verza?
Le ton, c'est celui de l'indignation, à vrai dire. Hein. Ouais. Quand je dis être laissé sur le cul, c'est réaliser qu'on est en train de jouer avec le printemps pour réussir à faire pousser des betteraves à sucre. Ça, moi, ça me laisse sur le cul, effectivement. Après ça, je pense qu'il y a besoin de s'adresser à chacun de la manière dont moi, j'aimerais qu'on m'explique les choses, c'est-à-dire sans faux semblant, avec des mots qui sont à peu près compréhensibles, avec des mises en perspective aussi. avec des images. Et c'est sûr que c'est le problème qu'on a avec les politiques qui vont nous parler de chiffres sans parler après ça de ce qu'ils représentent. Et c'est ce qui leur permet de faire passer des mini-actions ultra-symboliques pour des grandes révolutions. C'est le cas tout dernièrement, là, j'ai entendu dans votre journal l'ONU qui proposait de mettre en place un nouveau système de comptabilité. Je veux dire, on n'a pas un problème, comme le disait Camille Etienne, pour savoir qu'on va beaucoup trop vite et beaucoup trop loin dans la destruction des conditions de la vie sur Terre, que notre modèle économique est totalement incompatible avec le fait d'avoir un avenir passé 2100. Donc, c'est pas des nouveaux indicateurs dont on a besoin. Ouais.
Sur le, au-delà du temps, pourquoi avoir choisi, question à tous les deux, les médias numériques et particulièrement les réseaux sociaux pour parler de la lutte contre l'environnement ? C'est un choix de fait ou c'est un choix imposé parce que les médias traditionnels ne voulaient pas de vous ? Camille et puis ensuite Vincent.
En fait, il faut comprendre que c'est une partie de ce qu'on fait. Je pense que Vincent comme moi, on a utilisé toutes les plateformes qui étaient disponibles. Ça veut dire qu'il y a aussi ce qui se passe en dehors des réseaux sociaux qu'on voit pas. Je fais beaucoup de lobbying politique auprès des décideurs. Il y a beaucoup de d'autres manières d'impacter le monde. Mais c'est un outil comme un autre qu'il faut être capable d'utiliser. Il faut qu'on soit capable d'utiliser aussi les outils qu'on a aujourd'hui, les règles du jeu d'aujourd'hui, pour complètement bouleverser le plateau et l'issue du jeu, en fait, quelque part. Ça permet de toucher une audience jeune, pas uniquement jeune d'ailleurs aussi, d'avoir une grande liberté, comme vous le disiez, sur une liberté de parole. Et pour moi, ça, c'était intéressant d'utiliser, en fait, tout ce qu'a notre possession pour que l'information passe, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, si les gens sont au courant de l'urgence, je pense qu'ils auront beaucoup plus de facilité aussi à prendre le pouvoir.
Même question à vous, Vincent Verza. Les médias numériques, c'est un choix actif ou c'est un choix par défaut ?
Non, c'est un choix actif. C'est aussi simplement là où j'étais au moment où j'ai commencé il y a 5 ans. Donc ça avait du sens de parler depuis là où je suis. Et effectivement, je parle pas à des jeunes en réalité. Moi, j'ai la chance de parler à des 25-35 ans qui sont dans une possibilité justement d'agir là où peut-être le public plus jeune est souvent se sent plus impuissant parce que beaucoup plus cadré par l'école et les et l'absence de force économique pour faire changer les choses, quoi.
Sur le fond de votre discours, vous avez tous les deux des approches à la fois similaires mais aussi différentes. On en parle juste après une courte pause. On est avec Camille Etienne, membre du collectif Pensée Sauvage, et Vincent Verza. C'est la chaîne Partager, c'est sympa. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
9h-11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Camille Etienne du collectif Pensée Sauvage et Vincent Verza de la chaîne Partager, c'est sympa. Les nouvelles approches autour de l'environnement, loin des médias traditionnels. Sur le fond, je l'ai dit, vous avez tous les deux des approches à la fois similaires et en même temps différentes. Similaires parce que vous avez un discours assez radical, on va y revenir, et différentes parce que vous ne traitez pas le sujet de la même manière. Vincent Verza, vous traitez des sujets d'actualité. Est-ce que vous faites moins, Camille Etienne ? Votre vidéo, par exemple, Réveillons-nous, vidéo publiée l'an dernier, était une sorte de manifeste. Et aujourd'hui, vous apprêtez à tourner une série. Pourquoi avoir choisi ce discours-là assez général ?
En fait, on est complémentaires. Pour moi, il faut qu'on pense comme un écosystème, comme celui qu'on est en train de détruire, qui en fait fonctionne par effet de rebond. C'est-à-dire que chacun a sa place et chacun va, à un moment donné, servir à la cause. Moi, le travail de Vincent, j'appelle Vincent, mais Vincent Verza est hyper important pour moi. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup de choses de lui. Il va faire l'effort d'avoir toute l'information, ce que je fais aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, mais de manière moins structurée que lui. Et en fait, ils vont faire quelque chose de très digeste qui va, en quelques minutes, me donner l'essence et la complexité d'un problème précis sur l'environnement. Suite à ça, c'est de l'information que je peux après aussi derrière réutiliser pour faire quelque chose de plus général et de peut-être plus grand public. En fait, il faut pas partir du principe que tout le monde est au même niveau de conscience sur l'urgence écologique. On a des privilèges, on a un temps de cerveau disponible pour avoir accès à l'information, on a une éducation différente. Moi, mon rôle, c'est aussi de faire passer les gens à l'action qui sont encore un peu endormis, un peu latents et qui ne savent pas vraiment qu'en fait, au fond d'eux, il y a cette petite flamme pour se bouger, quoi. Donc moi, mon but, c'est peut-être de faire ça. Et à travers l'art, j'ai une partie plus artistique, une partie de fiction avec Solal Moisan, qui est réalisateur avec qui je travaille. Ce qu'on veut, c'est que nos fictions impactent le réel. Mais ça ne nous empêche pas de travailler beaucoup ensemble derrière avec Vincent et d'échanger aussi surtout sur ces questions-là.
Et vous, Vincent Verza, pour faire écho à ce que vient de dire Camille Etienne, comment voyez-vous votre rôle ?
Moi, mon rôle, il a évolué depuis le début. Au début, l'intention de la chaîne, c'était vraiment de donner l'envie et les moyens de passer à l'action pour construire un avenir juste et durable pour tous. Et on du coup, vulgarisait un sujet en moins de 5 minutes et on proposait à la fin un moyen d'action en lien avec ce que pouvaient proposer des associations ou des mobilisations qui étaient prévues. Et de plus en plus, on fait un travail de vraiment d'éducation populaire, d'essayer de vulgariser un maximum les sujets, d'effectivement mener, faire un travail d'enquête. De manière à couvrir, à minima, c'est un peu la mission qu'on s'est fixée, les grands sujets qui vont impacter notre avenir pour les 5 prochaines années. Parce que malheureusement, voilà, il y a des grandes décisions qui sont en train d'être prises maintenant, qu'on ne relie pas forcément à l'enjeu écologique ou de la biodiversité, comme celui de la relance suite à la pandémie, qui est en fait peut-être la dernière occasion qu'a l'humanité d'éviter d'aller dans le mur.
Alors je disais que vous aviez une vision assez radicale de la situation de notre planète. Vous dites en résumé qu'il faut changer de modèle, un discours parfois moqué. Exemple avec vous Camille Etienne, ça se passait l'an dernier, c'était à l'université d'été du MEDEF.
Je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui. Et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens, à vous de voir.
Alors, vous êtes ici quand même à la REP du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité.
Il y a eu aussi quelques rires dans la salle quand vous aviez parlé de croissance. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes idéaliste, que vous défendez un point de vue de privilégié et que vous êtes déconnecté des réalités économiques, Camille Etienne?
En fait, on a confondu ce qu'était que le mythe et la réalité, justement. C'est-à-dire que l'économie, à la base, c'est bien ça qui est un mythe. L'économie, c'est censé être un moyen. C'est quelque chose qu'on a inventé, faut pas l'oublier. Qu'aujourd'hui, l'argent, un billet de 10 euros, si on décide collectivement demain que 10 euros ne vaut plus 10 euros, il ne vaut plus 10 euros. À l'inverse, il y a des réalités physiques, biologiques, chimiques qui sont des limites planétaires qu'on est en train de dépasser et qui vont entraîner des effets d'emballement contre lesquels on ne pourra pas lutter. Donc, elles sont là, les réalités. Donc, il faut simplement repositionner aussi qu'est-ce qui est une réalité, qu'est-ce qui est un mythe. C'est important pour moi de se rappeler de ça. Et pourquoi être radical ? Radical, ça veut simplement dire aller à la racine du problème. Mmh. Et c'est manifestement ce qu'on fait plus quand on fait du greenwashing, quand on pense avec les mêmes schémas de pensée de croissance absolue. Je vais aller très vite, mais juste, la croissance aujourd'hui, elle est mesurée par le PIB. Moi, une croissance de la santé, de l'équité, du bonheur, de l'éducation, bien sûr que je suis pour. Maintenant, aujourd'hui, une marée noire est bonne pour l'économie parce que ça crée des points de PIB. Est-ce que c'est réellement comme ça qu'on veut mesurer le bien-être de nos citoyens ? Je suis pas certaine.
Vincent Versa, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez une vision, ce vous est un vous très collectif, une vision trop noire, trop négative de ce qui se passe concrètement ?
Eh bien, j'envie leur optimisme, parce que je ne sais pas sur quoi ils s'appuient, du coup. Je pense qu'il y a...
Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, l'automobile, il y a beaucoup de gens, et vous connaissez le poids des lobbies, qui consiste à dire l'automobile, ce sont des emplois. Tout le monde sait, par exemple, je cite ce chiffre de mémoire, que le diesel, c'est 38 000 morts par an, je crois, c'est le chiffre de l'OMS, je le cite de mémoire, s'en fiche. Mais si on interdit le diesel, vous mettez toute la France dans la rue. Tout le monde sait que les particules fines, c'est très dangereux. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas les interdire ex abrupto du jour au lendemain.
Ben je suis surtout pas surpris que la sortie du tout voiture en France prenne autant de temps quand je vois qu'il y a littéralement
chaque
page de pub.
Parlons pas de la sortie de la voiture, pardonnez-moi, ne partons même pas de la sortie de la voiture, je parle juste de interdire le diesel pour passer tout le monde à l'essence ou à l'électrique. Même ça, politiquement, c'est absolument impossible. Je dis pas que je l'approuve, je dis que c'est impossible.
C'est même pas la solution qui est proposée d'un point de vue écologique, ça n'a pas de sens. En fait, l'idée, c'est de sortir des solutions individuelles comme les modes de déplacement, que ce soit électrique, voiture ou essence ou diesel, c'est pas la solution. La solution, c'est les transports en commun. Le fait de construire une infrastructure qui permet de se déplacer en évitant que chacun ait sa petite bagnole et déplace sa tonne tout seul. Après, moi, j'ai envie de mettre un point sur l'optimisme. Je sais pourquoi est-ce que la différence entre le pessimisme et l'optimisme. Je sais que un certain nombre de décideurs s'appuient aujourd'hui sur les conseils des économistes pour prendre des décisions, y compris d'un point de vue environnemental. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le postulat de l'économie aujourd'hui, c'est que n'importe quelle ressource est remplaçable. Que si demain les abeilles disparaissent, eh ben on mettra des drones dans les airs et c'est les drones qui feront le printemps.
Pardon,
moi, je ne pense pas que ce soit possible.
Non plus.
Donc c'est sûr que ce postulat-là est réel. Hein. C'est vraiment ce sur quoi s'appuient les modèles économiques pour définir les mesures qu'on doit prendre. C'est ces mêmes économistes qui ont l'oreille attentive des gouvernements aujourd'hui, moi je suis pessimiste parce que je vois qu'ils l'ont encore. Je serai optimiste le jour où je vois qu'il y a une rupture là-dedans, qu'il y a un cadre idéologique qui s'effondre, qui est celui du néolibéralisme et du capitalisme actuel, et qu'on écoute d'autres personnes. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec Camille Etienne.
Alors on se rend compte que remplacer une chose par autre chose, j'ai l'impression que c'est du Coluche, c'est pas toujours mieux. Par exemple, le numérique qui ne cesse de se développer, le télétravail, ça remplace les transports, mais le numérique ne cesse de se développer et ne cesse de polluer. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, chiffre qui va doubler dans les années qui viennent. Comment réagissez-vous face à cette réalité? Et vous qui utilisez tous les deux le numérique fortement. Je ne vous le reproche pas, mais comment traiter ce problème?
Il y a des méthodes pour diminuer l'impact de son utilisation numérique, dans la manière de filmer, dans la manière de gérer par exemple les tournages. Nous, tous nos courts-métrages sont produits en éco-production, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui réfléchissent sur comment est-ce que ce tournage peut impacter le moins possible l'environnement. Maintenant, il faut aussi être capable, à mon sens, d'utiliser les outils qu'on a aujourd'hui et se dire que ça peut avoir une puissance telle, parce qu'on peut toucher d'un coup des millions de gens qui peuvent être ensuite au courant de l'urgence et donc avoir envie d'agir. Donc pour moi, il faut aussi penser en termes de proportion et d'impact quand on réfléchit à comment est-ce qu'on utilise ça. Maintenant, bien évidemment qu'on ne va pas pouvoir continuer à utiliser du numérique à ce rythme-là très longtemps. Ça, c'est certain qu'il va falloir à un moment donné changer.
Comment vous financez vos vidéos puisque c'est ce que vous avez choisi de faire?
Vincent, redire un truc sur le numérique qui est que c'est évident qu'on vit à travers le système, tout le monde. Personne n'a pas le capitalisme dans sa maison, même s'il est militant anticapitaliste. Et que, en fait, il faut aussi prendre les choses en proportion. Quand j'entends dans votre journal que Netflix se fait sanctionner par la bourse parce que ils ont pas réussi à avoir 2 millions en plus d'utilisateurs, alors même que c'est des absolus mastodontes de la consommation numérique et que leur poids augmente chaque année. C'est bien qu'il y a des règles du jeu, encore une fois, c'est l'économie qui font dévisser le système. Donc c'est pas tant les individus qui font des petites vidéos sur YouTube ou sur Instagram que les grandes plateformes qu'il faut réguler.
Voilà, c'est pas Netflix qui a dévissé, c'est l'action en bourse de Netflix. Netflix se porte très bien, vous avez raison de le souligner. Comment vous êtes financés tous les deux?
Moi en tout cas je fais du financement participatif, c'est-à-dire que nous c'était important pour nous que ce soit gratuit, c'est-à-dire que les gens aient accès gratuitement sur YouTube, parce que justement une question de privilège aussi, il y a des gens qui peuvent pas forcément se payer les moyens d'aller sur des plateformes diverses et variées pour avoir accès à l'information, et vu qu'on veut qu'elle soit la plus massive et ouverte possible, on décide de recourir à un Kiss Kiss Bank Bank. D'ailleurs voilà. Il reste 10 jours voilà. Donc n'hésitez pas.
Alors vous visiez 15 000 euros, si je suis bien informé, vous avez déjà récolté 32 500 euros. C'est le bon chiffre?
C'est absolument ça. Ça nous permettra de faire donc deux épisodes de notre série pour l'instant.
Même question à Vincent Vezra. Comment êtes-vous financé?
100% par les dons de nos abonnés. Je considère que c'est un cercle vertueux. On s'en soucie, on ne sert plus à rien. Et ben, les gens vont arrêter de donner de l'argent pour qu'on fasse nos vidéos. Et que si par contre ce qu'on fait est utile, ils vont nous permettre de le faire en toute transparence sur nos besoins. Et ouais, ça fonctionne comme ça depuis un bout de temps. Et je pense que c'est indispensable pour avoir une information indépendante et pouvoir traiter les sujets en toute liberté. Ouais.
Merci beaucoup pour votre présence dans cette émission. Et merci pour votre belle énergie à tous les deux. Camille Etienne, Pensée Sauvage, bientôt la série. Et Vincent Vezra, Partager c'est sympa. On partage, on est sympa. C'est sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Merci encore à tous les deux d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, on va rester dans la thématique environnementale. Nous serons avec Cyril Dion, réalisateur du documentaire demain, mais il sera là tout de suite. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, l'émission de référence sur les médias. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur du documentaire Demain, 1 million d'entrées en salle, un César, puis sorti dans plus de 30 pays. Demain, j'en parle parce qu'il est repassé hier soir sur TMC dans le cadre de l'opération Les 24 heures de la Terre. Vous connaissez l'audience?
Non.
Je vais vous la donner. 491 000 téléspectateurs et 2,2% de part d'audience. C'est pas mal pour une rediffusion. Je précise qu'on devait être avec Fanny Agostini, qui ne peut pas être avec nous ce matin. On pense à elle et on l'embrasse. Vous êtes également, Cyril Dion, je reviens à vous, à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle. Et c'est donc aujourd'hui la Journée mondiale de la Terre, événement qui existe depuis 70 ou depuis les années 70. C'est plus qu'une journée symbolique. Après le départ du climato-sceptique Donald Trump, le président américain Joe Biden remet les USA dans la course contre le réchauffement climatique, va se tenir une grande visioconférence des grands chefs d'État de la planète, 40 participants dont Angela Merkel, Emmanuel Macron, normal, mais également Vladimir Poutine et le chinois Xi Jinping. Qu'en attendez-vous, Cyril Dion, car vous êtes très concerné par ce qui se décide en très haut lieu?
Ce qu'on attend, c'est que la Chine prenne des engagements plus importants encore que ceux qu'elle a pris jusqu'à maintenant. Elle a déjà fait des progrès, puisque pour la première fois, le pays s'est engagé à la neutralité carbone en 2060. Donc là, on espère qu'il descende à 2050. Mmh. On espère aussi que les engagements des États-Unis vont être aussi volontaristes que ce que les discours de Joe Biden et de John Kerry laissent à penser.
D'après le Washington Post, ils vont annoncer 50% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre.
D'ici 2000...
C'est l'année qui pose problème.
Oui, exactement. Parce que là, l'Europe vient de s'engager donc à moins 55% d'ici 2030, ce qui est un progrès, puisque jusqu'à maintenant, on était plutôt à moins 40%. Mm-hmm. En fait, on se rend compte que le réchauffement va plus vite que ce qu'on avait imaginé et que les différentes projections du GIEC qui avaient été faites, qui étaient relativement pondérées et prudentes, étaient plutôt dans la fourchette basse. Mm-hmm. En tout cas, c'est ça que l'un des auteurs du prochain rapport m'a confié récemment. Et donc, même les pays et même les chefs d'État s'en rendent compte. Et ils voient bien qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que de prendre des engagements extrêmement ambitieux.
Alors, le président Poutine va participer à la conférence, mais il est resté très vague, tout en affirmant sa volonté. Il a promis que la Russie allait s'attaquer au réchauffement climatique de manière sévère. Mais va savoir ce qu'est de manière sévère, on n'en sait rien. Hier, là c'est du concret, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé une baisse de 78% pour 2035. 78%, c'est un chiffre prodigieux. Mais 2035, c'est dans 14 ans, Boris Johnson ne sera plus aux affaires depuis longtemps. Est-ce que vous ne préféreriez pas des chiffres plus modestes, mais pour l'année prochaine, du concret, avec donc la possibilité de dire au chef d'État « vous n'avez pas tenu parole ».
Si, on préfère vraiment que les engagements soient pris dès maintenant. Et que
il y ait
chaque année des baisses significatives, en fait. Parce que le problème de se donner des dates relativement lointaines, donc déjà 2030, c'est mieux que 2050, puisque jusqu'à maintenant, tout le monde parlait de neutralité en 2050, mais le problème qu'on a, et c'est encore une fois ce scientifique du GIEC qui me l'a confié récemment quand je suis allé l'interviewer pour un documentaire, c'est que on va dépasser les 1,5 degrés fatidiques, qui étaient supposés être la barre qu'on ne devait pas dépasser d'ici 2030-2035, c'est à peu près certain, étant donné la quantité de carbone qu'on a mis dans l'atmosphère et l'inertie qu'il y a, donc qui fait que le carbone reste un certain nombre d'années et continue à réchauffer. Et on va dépasser les 2 degrés entre 2040 et 2045. Mmh. Donc, si les pays se donnent des objectifs trop lointains et que d'ici la date de ces objectifs, ils font rien, ils comptent par exemple sur des ruptures technologiques pour pouvoir faire beaucoup d'efforts d'un coup au dernier moment, ça va être catastrophique, parce que pendant ce temps-là, le réchauffement va continuer et tout le carbone qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui va continuer pendant des décennies à réchauffer le climat.
On est bien d'accord. La journée de la Terre, je vais le préciser, c'est également sur les ondes, à commencer par la radio. Europe 1 propose toute la journée de nombreux rendez-vous pour sensibiliser les auditeurs. Et la journée va se terminer en musique avec la rediff d'un concert Live Earth qui avait été organisé sur les 7 continents. J'ai appris qu'il y en avait 7 parce que c'était le 7 juillet 2007. À noter qu'il y a des chaînes qui vont marquer le coup. Arte ou France 5, toute la journée sera consacrée à l'environnement. Et ce soir sur France 5, un documentaire sur les dinosaures. Et je précise aussi, parce qu'on l'avait reçu une fois, Olivier Chabaudeau, son application des Explorers, c'est l'application du jour sur Apple. On parle avec vous, Cyril Dion. On n'est pas sur des petits propos de café du commerce. Pour donner votre dimension, le 15 mars, vous avez été reçu en tant que garant de la Convention citoyenne pour le climat par le pape François à Rome. Que vous a-t-il dit? Que lui avez-vous dit? On marque une pause et on se parle de tout ceci. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Cyril Dion, à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle, mais c'est pas tout. Co-fondateur avec Pierre Rabhi de l'association Colibri, mais c'est pas tout. Réalisateur du documentaire Demain, qu'on peut toujours voir sur toutes les plateformes VOD. Cyril Dion, le 15 mars, je l'ai dit, vous avez été reçu en tant que garant de la Convention citoyenne pour le climat par le pape François à Rome. Il vous a vraiment dit « faites la révolution ».
Oui. Ben, d'abord, il nous a dit qu'il était très inquiet de la situation écologique. Enfin, il avait écrit une encyclique sur le sujet, Laudato aussi. Il nous a aussi dit qu'il était très inquiet de voir la montée des populismes un peu partout en Europe et dans le monde. Et que pour lui, la solution, c'était les mouvements populaires, c'était la solution au populisme et donc que ça signifiait que les gouvernements devaient écouter leurs citoyens. C'est d'ailleurs pour ça que j'allais lui parler de la Convention citoyenne et de ce qui se passait en France avec la loi climat et le fait que le président de la République n'avait pas tenu sa promesse vis-à-vis des 150 citoyens tirés au sort. Et il nous disait, la génération qui est aux manettes aujourd'hui est sourde et enfermée dans la doxa de la finance. Mmh. Donc il faut les bousculer. Donc il nous a dit, je vous dis la même chose que ce que j'ai dit aux jeunes quand j'ai été élu pape en 2013 en Argentine. Allez dans la rue et faites la révolution. Et il nous disait que cette révolution, pour lui, pouvait venir des plus jeunes et des plus vieux, qui étaient capables de penser en dehors du cadre et d'avoir des solutions créatives.
Alors, il paraît que vous l'avez raconté également, les gilets jaunes. Et question, quel rapport entre les gilets jaunes et l'écologie? Je vous précisais le sens de ma question. Je me souviens au contraire que les gilets jaunes étaient contre toutes les taxes sur le carburant et que c'était même justement ce qui avait mis le feu aux poudres, prendre des mesures en faveur de l'environnement.
Ben, en fait, le rapport, c'est que c'est l'exemple parfait d'une mesure qui a été prise de façon injuste socialement et économiquement, en faisant peser sur les plus fragiles l'effort pour réduire la consommation d'essence et donc les émissions de gaz à effet de serre.
Là, juste on demandait à des personnes. Juste un mot, il aurait fallu faire comment? J'entends bien ce que vous dites, mais il aurait fallu faire comment?
Il aurait fallu taxer en fait les entreprises qui elles-mêmes aujourd'hui sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Là, on vient de voir un classement qui a été fait par Oxfam des entreprises qui polluent le plus. Bah, aujourd'hui, faire porter cet effort fiscal sur Total, sur les grandes banques comme la BNP, comme la Société Générale, qui font des profits extraordinaires, qui distribuent des dividendes et qui, eux, sont en moyenne et en proportion moins taxés que des personnes qui gagnent très peu et qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, ben ça, ce serait une solution plus juste et structurellement plus efficace, parce qu'elle permettrait de réorienter des investissements, notamment pour les grandes banques, dans une économie qui est beaucoup plus soutenable.
Pour répondre aux gilets jaunes, justement, en avril 2019, le président de la République avait annoncé la création d'un conseil de défense écologique qui réunit le Premier ministre, les principaux ministres en charge de la transition écologique et lui-même. Quel bilan en tirez-vous?
Bah, c'est un peu le même bilan que sur l'ensemble des décisions qui sont prises par ce président de la République. C'est-à-dire qu'il a tendance à décider tout seul, vraiment, dans des petits cénacles. Et il crée des instances, puisqu'il a aussi créé le Haut Conseil pour le Climat en 2019, qui réunit un certain nombre de scientifiques éminents sur la question climatique, notamment un certain nombre qui participent au GIEC, comme Valérie Masson-Delmotte, qui est vice-présidente d'un des groupes de travail du GIEC. Et ils les écoutent pas. Là, sur la loi climat qui va être adoptée là dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale, le Haut Conseil pour le climat a rendu un avis en disant elle n'est pas à la hauteur, elle permet pas à la France de tenir ses engagements. Et le gouvernement s'est obstiné à réduire l'ambition des propositions qui avaient été faites par la Convention citoyenne de façon assez incroyable et à ne pas se donner la possibilité de tenir les objectifs qu'il s'est donné lui-même. C'est-à-dire que le gouvernement s'est donné lui-même des objectifs de réduire de moins 40% les émissions d'ici 2030. Les citoyens de la Convention lui en ont donné les moyens en lui proposant un plan très ambitieux. Ouais. Et le gouvernement se tire une balle dans le pied tout seul en ne se permettant pas d'y arriver.
On est une émission média. Comment expliquez-vous que depuis le temps que les médias parlent d'environnement, que le message soit toujours aussi difficile à faire passer? Pour prendre un exemple concret, pourquoi les gens continuent à se ruer dans les supermarchés? Je parle évidemment quand ils ont le choix d'aller dans une petite boutique, le petit commerce juste à côté.
Ben, déjà, je trouve que ça change beaucoup depuis 3 ans. En gros, depuis l'été 2018, on voit dans tous les sondages d'opinion qu'il y a un intérêt et
dans les sondages, mais dans les faits.
Dans les faits, on le voit sur un certain nombre de curseurs. Ouais. Notamment, on voit que la consommation a tendance à baisser pour la viande, à augmenter pour les produits bio, que à chaque fois que les gens peuvent, en gros, faire l'effort, ils le font. Maintenant, et c'est ce que disait un peu Vincent Verza tout à l'heure, c'est un problème structurel. Ouais. Vous dites qu'ils ont le choix, mais où
j'ai dit
ils
quand
ont le choix?
Non, j'ai dit quand ils ont le choix, évidemment. Si vous êtes en plein centre de Paris, vous pouvez pas aller chez le petit cultivateur. J'ai une toute petite dernière question, parce que le temps presse. Sur le papier, tout le monde est favorable à l'environnement, mais des affaires récentes ont montré que certains élus écolos font peur. On a vu ces maires écolos de grandes villes qui refusent la 5G, qui ont banni les sapins de Noël, qui refusent des subventions à une association d'enfants handicapés parce que l'avion ne doit plus faire rêver. Et tout récemment, vous avez vu cet élu de Vincennes qui a refusé de voter une subvention au nom de la pollution à un yacht club, donc des bateaux à voile. Vous comprenez que les Français craignent le retour de l'écologie punitive. Et que proposez-vous à la place?
Alors ça va être dur de répondre à toutes ces questions.
Je suis désolé, c'était la fin.
En gros, Non. En gros, c'est quand même des polémiques qui ont été un peu montées en épingle, il faut quand même le dire. Par exemple, le maire de Lyon à qui on a reproché de vouloir interdire la viande à la cantine, c'était une mesure provisoire pendant 3 semaines. Et Gérard Collomb de La République En Marche avait pris exactement la même mesure.
Et j'avais fait exprès de ne pas citer cet exemple.
Ce fameux jeune élu, il s'est excusé sur Twitter tout de suite après. Il a 19 ans, 20 ans, il dit « je suis vraiment nul, j'ai passé plus de temps à étudier mes partiels que le dossier ». Il s'est retrouvé comme un andouille. Et en l'occurrence, personne ne s'intéressait à ces conseils municipaux avant. Personne n'allait chercher des discussions dans le conseil municipal de Poitiers.
On est d'accord.
Avant, là, il y a vraiment une stratégie pour essayer aussi à chaque fois de taper sur les maires écolos.
Merci beaucoup. Je suis obligé de vous dire merci Cyril Dion. Voilà. La stratégie, ça fait partie des médias et vous le savez autant que moi. Après le rappel des titres dans Culture Média, on va recevoir Clémence Olivier pour le zapping du lendemain, Chamerois pour son écran de veille qui prend soin de vous, le DJ et producteur Yuxek, ce sera notre invité culture. C'est lui qui a signé la musique dans Thérapie. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média.